S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose d'écouter Emmanuel Royon, qui précédemment a commencé sa carrière à l'INEHA, là où d'ailleurs on a œuvré ensemble autour de Gallica et des collections en art, et qui a rejoint donc en 2013 la SNHF, avec en charge donc la gestion et la valorisation des collections patrimoniales et contemporaines, et aussi le pilotage d'un joli projet qui est Hortalia. Et justement, ça va être le propos notamment de son intervention.
Merci. Du coup, je vais vous présenter donc les collections de la bibliothèque de la Société nationale d'horticulture de France. J'ai sous-titré un pan de l'histoire horticole, peut-être de manière un peu ambitieuse, mais il me semble que les collections de la bibliothèque, en fait, elles ont nourri les travaux des sociétaires autant qu'ils ont nourri le fond de la bibliothèque. Et je pense que toute l'histoire de la SNHF suit l'histoire de l'horticulture. Pour comprendre en fait le fond de la bibliothèque, il faut revenir un petit peu sur l'histoire de notre société. Donc j'ai appelé ça histoire de société savante au pluriel, c'est pas une faute, c'est parce qu'en fait la SNHF telle qu'on la connaît aujourd'hui est issue de deux sociétés. Donc la première en 1827, qui est la Société d'horticulture de Paris, qui a été donc créée sous l'impulsion du vicomte Éricard de Thurie, une petite réunion des amoureux de l'art des jardins a créé cette société. Alors, elle va changer beaucoup de fois de nom, cette société. En 1935, elle va devenir Société Royale. En 1948, Société Centrale d'Horticulture de France. Et ça a tout son intérêt, puisqu'en fait, ça aide à comprendre toute la publication. Donc, Daniel Lejeune vous le disait, des bulletins, annales, journal de cette société, puisqu'elle a changé quand même 10 fois de titre, 10 fois de nom. Donc, ce n'est pas simple à comprendre. En 1952, donc, elle est reconnue d'utilité publique. Et en 1941, une nouvelle société est créée, parallèlement, c'est le Cercle Général d'Horticulture de la Seine. En 1942, il n'est plus que Cercle Général d'Horticulture, donc exactement la même chose que pour l'autre société, finalement. Il va aussi changer de nom, et dans la bibliothèque numérique, on a deux titres généraux qui s'appellent Journal de la SNHF ou Bulletin de la Seine, pour essayer de les regrouper en une même publication. Et donc en 48, il prend le nom de Société nationale d'horticulture de la Seine. Sur cette slide, vous voyez l'hôtel de l'horticulture. Donc en fait, il faut vous imaginer que vous auriez pu passer ce porche-là plutôt que ce bâtiment années 70. Et il se trouve que dans le dictionnaire Larousse du 19e siècle, à l'article Société savante, il était l'un des plus importants hôtels de Paris, après celui des sociétés savantes rue Serpente. Ici, c'est juste pour vous faire rêver un peu. Vous pouvez vous imaginer être assis dans cette salle et nous regarder sur cette estrade. C'était l'ancienne salle des horticulteurs et il y a eu finalement les mêmes choses qui se passent actuellement. On loue parfois cet espace. Eh bien, dans cette salle, il s'est passé plein d'autres choses que la SNHF. Et sur Gallica, justement, on peut retrouver certains événements, comme par exemple la prise de parole d'André Breton ici. Alors en 1954, ces deux sociétés, elles vont fusionner pour en faire plus qu'une seule, qui sera donc en 1955 la Société impériale d'horticulture de Paris et centrale de France, et qui est reconnue elle aussi d'utilité publique par décret du 11 août. En 1966, donc, elle devient Société impériale et centrale d'horticulture de France, c'est pas simple. En 1971, Société centrale d'horticulture de France, et enfin en 1985, le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, Société nationale d'horticulture de France. Alors, à titre personnel, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire de société, c'est qui étaient ces gens qui ont créé cette structure. Est-ce que c'était tous des professionnels? Est-ce que c'était tous... Voilà, c'était une question. Alors, j'aurais aimé plus dépouiller les bulletins. Malheureusement, le temps m'en a manqué. Donc, j'ai travaillé sur les deux premières années de création des deux sociétés. Donc, en 1827, j'ai pu retenir 328 membres fondateurs, parmi lesquels 5 femmes, tout de même, dont Aglaé Adanson, à qui l'on doit l'arboretum de Baleine. Parmi ces 328 membres fondateurs, 72 ont indiqué être propriétaires de domaines, parfois étant la seule activité connue de ces gens. C'était être propriétaire. Alors, bon, je pense qu'il va falloir croiser un petit peu les bulletins pour savoir ce qu'ils pouvaient par ailleurs faire. Je trouvais, comme ça, en parcourant les pages, qu'il me semblait avoir beaucoup de personnes issues de la noblesse. Alors, est-ce que c'était une vision de l'esprit ou pas? J'ai pu noter 65 sociétaires avec des titres de noblesse indiquées en tout cas dans le bulletin, donc comte, marquis, baron, duchesse, etc. Après, il y a une donnée que je n'ai pas pu analyser, que j'aurais aimé, et si dans la salle certains sont des experts. À côté de ces noms-là, en fait, on retrouve toujours des petits symboles de décoration, donc croix de la Légion d'honneur ou l'ordre militaire de Saint-Louis. Mais je n'ai pas pu les identifier avec certitude. Donc, si parmi vous, certains sont experts des petits symboles sur les publications, je suis preneuse. C'était quand même une société très parisienne. Sur ses 328 membres, 274 étaient domiciliés à Paris et en région parisienne. Enfin, c'était certainement pas le nom à l'époque, mais en tout cas, grosso modo, pour se faire une idée. Et 243 à Paris même. Donc quand même les deux tiers largement. Et il y a seulement 8 membres ayant renseigné une adresse principale à l'étranger, mais par contre, c'est aussi une donnée qu'il faut affiner, parce que certains qui selon moi, étaient dans des sociétés horticoles étrangères, avaient aussi une adresse à Paris. Donc c'est pareil, il faut croiser les données pour essayer d'être un peu plus fin. Et là, acrobatiquement, j'ai essayé de me dire, mais que faisaient ces gens, donc, les activités ? Sur la droite du graphique, j'ai mis des espèces de catégories de professions. Donc administration, sachant qu'au 19e siècle, ça veut un peu rien dire, mais je n'arrivais pas vraiment à trouver de termes pour ces travaux qui servaient finalement la France. Mais bon, voilà. Et en fait, on trouve dans cette société finalement que 21% de réels praticiens, horticulteurs, jardiniers, paysagistes, finalement, c'est pas si important que ça. Vous voyez qu'on a beaucoup de politiques, de professeurs non, mais de militaires, 28 membres. Finalement, c'était une société qui avait vraiment des profils très très variés. Et j'ai découvert dans l'ouvrage de Jean-Pierre Chaline sur les sociétés savantes qui est paru au CTHS, un ouvrage qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle « Jérôme Patureau à la recherche d'une position sociale ». Et quand je vois la diversité de ces profils, ça m'y fait penser, de manière satirique bien sûr. En fait, Jérôme Patureau, donc, dans un chapitre qui s'appelle « Les sociétés philanthropiques et savantes », reçoit dans ses salons avec sa femme Malvina un expert d'une société de statistiques. Et il veut absolument trouver de nouveaux membres pour cette société de statistiques. Donc il essaye de convaincre Malvina que quand elle fait ses courses, quand elle prépare sa cuisine, finalement elle fait de la statistique. Mais il n'arrive pas à la convaincre. Donc il se tourne vers Jérôme Patureau et puis il essaye de le convaincre, il le convainc tellement bien que finalement Jérôme Patureau accepte de rejoindre cette société de statistiques. Et donc il va offrir à la France, parce que bien sûr ça manquait, une étude sur les chats. Personne en France ne s'était livré à un recensement sur les chats, question importante cependant, comme consommation de débris de boucherie et comme contrepoids à la multiplication des souris. Je résolus de doter mon pays de ce travail et de combler cette lacune. Et c'est assez intéressant parce que donc à la fin du chapitre, notre Jérôme Patureau, il reçoit un brevet de statisticien, des médailles finalement, ce qui effectivement était le cas dans les sociétés savantes. Il y avait des médailles, des décorations qui étaient offertes aux membres. Et il devient finalement membre de quelques-unes de ces sociétés. Ainsi, je devins membre des sociétés philotechniques, entomologiques, asiatiques, phrénologiques, philomatiques, numismatiques, panécastiques, géologiques, philanthropiques, de linguistique et de géographie. Des sociétés des antiquaires, de tous les encouragements, de toutes les émulations, propagations et perfectionnements possibles. Des beaux-arts, des naufrages, d'horticulture, de l'histoire de France, de l'éducation progressive, des progrès agricoles, de la morale chrétienne. Je devins membre de toutes les académies, de tous les athénées, de tous les instituts, si l'on excepte celui de France. Mes moyens me le permettaient. Et nul doute qu'effectivement les travaux des sociétaires ont toujours enrichi vraiment l'histoire de l'horticulture, mais il est effectivement le cas que tous ces sociétaires étaient membres de beaucoup d'autres. Donc là, sur les 328, 79 ont indiqué être membres d'autres sociétés, donc société des sciences, d'émulation, société linnéenne, là je n'ai pas le détail, et je pense que sur ces 328, il n'y en avait pas que 79, mais en tout cas c'est ce qui était renseigné dans le bulletin. Et dans l'autre société, donc on a 174 membres fondateurs, pas de femmes, malheureusement, mais c'est normal au 19e, peut-être. Sur ces 174, 161 sociétaires sont domiciliés à Paris donc, et en région parisienne, donc aussi très parisien. Mais chose intéressante, dans cette société que l'on sait être faite de plus de praticiens, finalement, cette phrase est vraie, puisque sur l'ensemble de ces sociétaires, 153 sont réellement horticulteurs, jardiniers, pépiniéristes. Donc là, pareil, j'ai un peu regroupé les différentes professions. Alors, c'était plus simple que dans la première, puisque dans la première, sur les 328, il y avait peut-être 328 titres différents ou métiers différents. Il n'y en avait pas un qui se ressemblait. Donc, du coup, c'était un peu compliqué à recréer. Et là, c'est quand même un peu plus simple parce que réellement, ils se croisent plus. Par contre, je n'ai pas fait le distinguo. Dans jardinier, par exemple, vous avez des jardiniers en chef. Vous avez un jardinier du roi. Et je crois que c'est tout. Voilà, donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous transmettre les chiffres. Mais voilà, il faudra aller peut-être un peu plus finement dans cette recherche parce que je pense qu'ils ont réellement fait la diversité de notre fonds. Et donc cette société, en fait, c'est une société d'horticulture. L'horticulture, ce n'est pas anodin, puisque en fait, ce terme arrive au XIXe siècle. La première fois en fait, qu'on en fait mention, c'est en 1824, dans la description du jardin de Fromont, dans les rapports de la société linnéenne. Et donc, dans le discours d'installation, le vicomte Éricard de Thierry dit « Nous avons adopté la dénomination de société d'horticulture parce que cette dénomination est exacte. Cette expression qui est la véritable et qui indique parfaitement le but des travaux de notre société » a d'ailleurs été généralement consacré par toutes les sociétés étrangères qui s'occupent de l'art et de la composition, pardon, et de la culture des jardins. Donc on sait que, par exemple, elle suit la création de la Société de Londres en 1804, qui avait ce nom de Horticultural. Et donc, vraiment, c'est, selon moi, c'est deux choses qui font la définition du fond, enfin, des fonds de la bibliothèque, c'est-à-dire à la fois une société d'horticulture et à la fois la diversité de ses membres, qui fait que nous avons des ouvrages qui ne sont pas à proprement parler liés à l'horticulture, mais des bulletins de l'Académie des sciences, des ouvrages de l'agriculture, de l'économie domestique. Voilà, on a une grande variété de titres qui finalement est la résultante des profils très divers et très variés des sociétaires. Donc aujourd'hui, nos collections se composent de 1289 titres de périodiques, puisqu'en fait, comme toute société savante, ce n'est pas propre à la SNHF, mais on échangeait énormément les bulletins, c'est-à-dire qu'on s'envoyait chacun les travaux des autres sociétés. Ce qui fait que parmi ces 1289 titres, vous avez un tiers qui correspond à des titres de sociétés correspondantes, ce qui est quand même globalement très important. Et énormément de ces titres-là, c'est essentiellement des ouvrages, des périodiques du XIXe siècle. Nous avons aussi plus de 10 000 monographies et le déménagement des collections a permis de les réorganiser finalement, puisque auparavant nous avions ce que nous appelions la BIBA, la bibliothèque ancienne, qui conservait à la fois des ouvrages du XVIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, mais aussi des ouvrages de 1970 perdus au milieu du XVIe siècle. Donc on a pu tous les recoter. Donc maintenant on a trois collections, disons. On a les fonds de réserve donc qui correspondent aux ouvrages du XVIe au XVIIIe siècle. Donc nous, on a 300 titres actuellement. Pour le XIXe siècle, on n'a pas terminé de recoter, donc malheureusement, je ne sais pas combien exactement nous en avons. Et le fonds contemporain qui reprend un plan de classement propre à la SNHF. Nous avons aussi des documents, donc des petits fascicules. Alors c'est très varié à la SNHF, parce qu'il y a aussi des mémoires et des thèses qui sont classées dans cette rubrique-là. Donc ça méritera aussi de faire un travail de repérage. Et des catalogues commerciaux, donc pépiniéristes ou même matériel horticole, avec 463 entreprises commerciales. Donc, comme Sophie Bertrand le disait, on a une bibliothèque numérique, et Daniel Lejeune vous l'a dit aussi, on a commencé la numérisation en 2011 avec des revues horticoles, donc la revue horticole, le journal de la SNHF, qui comprend tous les titres, toutes les appellations de la structure dont je vous parlais tout à l'heure, le bulletin de la Seine, qui est le cercle général d'horticulture de la Seine et ses évolutions de titres, l'horticulteur français et l'horticulteur universel. Puis en 2012, nous sommes devenus pôle associé de la BNF, et par ce biais-là, nous numérisons essentiellement des monographies. Donc pour le moment, nous avons numérisé, enfin tout ce qu'on conserve entre le XVIe et XVIIIe siècle en latin et en français a été numérisé, est en ligne, soit par nous, soit par d'autres institutions, mais tout ce qu'on conserve est actuellement disponible. Donc là, on s'attaque au XIXe siècle et comme la société a été fondée au XIXe, vous vous doutez que c'est la plus grosse partie de nos collections. En 2014, on a ouvert un nouvel accès en ligne parce qu'auparavant, en fait, les PDF étaient rattachés dans le logiciel documentaire. Et il fallait presque 5 minutes pour visualiser un document, autant dire que les gens étaient partis se chercher un café et n'étaient jamais revenus. Donc là, on a vraiment mis en place un logiciel performant. Et on a pu être signalé dans Gallica en octobre 2014. Donc très rapidement, je vais vous montrer en espérant que ça aille vite, mais hop, on va faire comme ça. Je vais plutôt passer comme ça parce que sinon, hop. Alors, je vous en ai tout de suite sur la bibliothèque numérique. Donc là, vous avez une page d'accueil avec 4 collections mises en avant, mais en fait, on en possède 7. Donc les photographies, c'est une nouvelle collection, mais qui est pour l'instant très peu nourrie, qui sera des photographies contemporaines que nos sociétaires en fait, nous donnent gentiment. Donc on les mettra à disposition de tous. Les lettres autographes, c'est un fonds d'archives de la société, mais il y a aussi un travail à faire des croisements de données, comme je vous parlais des profils de sociétaires. On a tout mis au même endroit, ce qui fait qu'on ne sait pas forcément si c'était des sociétaires de la Société d'Horticulture de Paris ou de l'autre société. Donc c'est aussi un travail où il va falloir croiser un peu les données. Et on essaye, autant que faire se peut, de faire des retranscriptions à chaque fois qui sont ajoutées au document original. Donc ça nous prend un peu de temps, puisque c'est assez long. Et ils écrivaient très bien, mais enfin parfois c'est pas forcément lisible. Les portraits de sociétaires, ce sont des photos du début XXe siècle, des profils avec parfois très très bien renseignés. Comme vous voyez ici, on a toutes les informations sur le monsieur. Voilà. Et donc, le fond le plus peut-être regardé, c'est celui des gravures issues de la revue Horticole, puisqu'on en a plus de 1600 en ligne. Voilà. Et donc on a fait des petits développements parce qu'auparavant sur ce logiciel on le naviguait 10 par 10, alors avec 1600 on était quand même mal embarqué. Et là vous avez aussi ce qui a été développé récemment, qui sont en fait des recherches par filtre lorsque vous lancez une requête. Par exemple vous pouvez choisir la collection ou par exemple décider que vous voulez que les gravures du XXe siècle. Voilà. Mais je vais repartir tout de suite après donc. Et donc, le portail documentaire. Donc, en fait, on a créé un catalogue donc Hortalia en 2005 avec 7 bibliothèques de sociétés régionales qui nous envoient leur collection pour qu'on puisse nous aussi les signaler dans ce catalogue-là. En 2012, il a été mis en ligne et en 2016, nous, on a mis en place un portail documentaire donc sous WordPress qui permet en fait une recherche fédérée sur la bibliothèque numérique et sur le catalogue, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et là, nous sommes en cours de réinformatisation, puisqu'en fait, le logiciel qui avait été mis en place avait son propre vocabulaire qui ne correspond à aucun format qui existe en France. Donc nous, on va déjà essayer de se mettre en Unimark, même s'il y a de nouveaux formats qui arrivent, au moins on sera dans un format commun qui nous permettra ensuite d'évoluer plus facilement. Et finalement, ça ne marche pas du tout, le passage de... Bon, c'est pas grave. Et donc sur ce catalogue, bientôt, enfin là, on aura une meilleure architecture des données avec une recherche fédérée beaucoup plus efficace. Mais ça, c'est les projets qui vont nous occuper jusqu'à 2018, je pense. Et là devant vous, la nouvelle bibliothèque que nous avons inaugurée le mois dernier et qui nous a largement occupé, mon collègue et moi, toute cette année, en plus des trains de numérisation pour la BNF, bien sûr, qui seront là à la fin de l'année. Donc là, vous voyez, et pour ceux qui le souhaiteront, en fin de journée, on pourra vous emmener si vous ne l'avez pas encore vu. C'était une ancienne salle de projection qui a été donc aménagée en salle de lecture. Voilà. Et donc le fonds ancien dont je vous parlais tout à l'heure, qui sera entre 1800 et 1959, se situe ici, dans les espaces entre les épis. Tout autour, là, tout le pourtour des collections, ce sont des bulletins de sociétés horticoles correspondantes du XIXe siècle. Et les ouvrages en libre accès sont jusqu'au troisième niveau avec les revues contemporaines. Et là, derrière la petite porte, il y a les ouvrages du XVIe au XVIIIe siècle qui ont été, pour le coup, eux, entièrement recotés. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Beaucoup, là, on a vu aussi une société dynamique et toujours en questionnement ce que ça donnait concrètement aussi sur le volet numérique, puisqu'on voit bien qu'il ne s'agit pas seulement de numériser, mais aussi d'avoir des questionnements sur le signalement, de faire évoluer aussi les interfaces, notamment avec le fait des facettes, enfin, des différents filtres. Et par rapport à ce, ces portraits un peu pluriels des sociétaires, quelquefois facétieux, hein, comme on l'a vu. On voit qu'en introduction, on a parlé de différence, mais on voit aussi qu'on parle de diversité, en fin de compte, dans la sociabilité des sociétés d'horticulture. Et je trouve que c'est assez symptomatique de votre présentation. Y a-t-il des questions ou y a-t-il des personnes qui peuvent nous en dire plus sur ces fameux symboles de décoration? Puisque là, il y a eu une question qui a été lancée en cours de discours. Oui, madame. Il y a un micro qui arrive.
Oui, Emmanuel, je pense que pour les symboles de décoration, il y a une similitude probable avec les catalogues des salons du 19e siècle. Je suis tout à fait prête à vous aider puisque je suis très familière des catalogues de salons comme historienne de l'art. Il y a des légendes au début des catalogues de salons qui vous permettent.
Et oui, parce que là, en fait,
c'était
pas
une espèce de norme éditoriale. Hein, c'était, il y avait ça chez les imprimeurs. Il y avait des plombs avec des symboles de décoration qui doivent se retrouver, je pense, d'une publication à l'autre.
Oui, parce que là,
Il n'y a pas de légende.
Il n'y a pas de légende. Et en fait, j'ai contacté le musée de la Légion d'honneur, mais eux, ils m'ont dit ah mais non, les médailles, elles ont ces pendants, mais sauf que c'est pas des médailles, c'est des symboles, donc bien évidemment que c'est simplifié. Donc, enfin, en tout cas, pour aujourd'hui, j'ai pas eu la réponse et j'ai pas pu du coup analyser parce qu'il y a quand même énormément de noms qui sont concernés. Donc là, aujourd'hui, j'avais pas la réponse, mais
je pense que c'est faisable.
Françoise Dubos, je voudrais dire que, entre autres travaux remarquables d'Emmanuel Royon, que je tiens à souligner, il y a ce travail qu'elle a fait sur les membres, ce travail historique, ce travail d'historienne qu'elle a fait sur les membres de la société. Et j'ai été d'autant plus intéressée que j'avais fait un travail un peu analogue sur la société d'horticulture et de sciences naturelles de l'Hérault, et où je trouvais une population tout au cours du 19e siècle. En fait, la société de l'Hérault a été créée en 1867 par le fils d'Aglaé Adanson, qui était en même temps un homme politique, donc tout ça. Il y a des croisements admirables qui se font. Et je retrouve dans cette société une composition très comparable à celle que vous décrivez pour le 19e siècle, le début du 20e. C'est-à-dire, il y a tous les notables. Et ça montre l'importance qu'ont toutes ces sociétés locales ou régionales, départementales le plus souvent, mais parfois de villes. Il n'y a pas que Nancy, il y a Lyon, il y a d'autres sociétés qui portent le nom d'une ville. Mais dans la plupart des cas, ce sont des sociétés départementales. Et elles ont une importance considérable dans l'économie locale. Et ce n'est pas par hasard que tous les notables sont là. Et ça, c'est très important. La noblesse est là. Et dans la société, à propos de la place des femmes, dans la société de l'Hérault, il y a une dizaine de dames patronesses. Et si elles portent ce titre, c'est qu'elles sont là pour apporter de l'argent et pour financer, évidemment, au titre de leur notabilité. Elles sont toujours des épouses d'un personnage important. Et donc, voilà la place des femmes, en tout cas dans la Société nationale de l'Hérault. Mais j'en profite pour dire que cette comparaison de société, il faut la pousser davantage et j'inviterai beaucoup d'étudiants à travailler sur la question.
Je vous rappelle que d'ores et déjà, vous avez un terrain d'écriture qui est possible à demain, c'est les billets de blog Gallica. Et que si vous voulez justement faire des articles, une série d'articles comparatifs sur les membres sociétaires, vraiment le blog Gallica vous est ouvert. Voilà.
Mais effectivement, les dames patronesses, je ne les avais pas forcément, on en avait discuté avec Monsieur Lejeune. En fait, les listes arrivent un peu plus tard. Et du coup, effectivement, il faudrait aussi les ajouter.
Bonjour. Donc, juste une question pour Emmanuel Royon, Antoine Jacobson. Bibliothèque est peut-être un peu trompeur comme nom finalement, parce que dans, vous avez mis des autographes, vous avez mis des photos en exemplaires plus ou moins uniques. Quelles sont les intentions, les perspectives d'accumulation, on va dire, d'archives?
Alors, pour ce qui est des lettres, parce qu'en fait, on a retrouvé les archives, mais elles n'ont jamais été inventoriées. Donc là, moi, je suis en train de dresser l'inventaire. Et il se trouve que le fonds de lettres qui a été mis en ligne a été sorti des archives, ce qui normalement ne devrait pas être fait. Parce qu'en fait, quand on reprend les archives des sessions des sociétaires, les lettres sont glissées puisqu'elles étaient envoyées en fait pour chaque conseil d'administration ou réunion des sociétaires. Et donc, elles étaient avec l'ordre du jour. Et il se trouve que, je ne sais pas, dans le passé, elles ont dû être sorties et elles ne sont plus dans le fonds d'archives. Donc, pour l'instant, ça, c'est différent. Mais par contre, ce qu'on a retrouvé, pour l'instant, c'est à l'inventaire. Et ensuite, ben, ça sera mis en ligne. Mais il y a un sacré travail encore sur l'inventaire.
La dernière question avant de passer à la dernière intervention avant la pause.
Bonjour, Isabelle Proulx. Vous parliez d'un travail long à réaliser de retranscription des documents manuscrits. Vous le faites vraiment, entre guillemets, à la main?
Oui. Oui.
Parce qu'il y a des systèmes, je ne sais pas si c'est facile même de faire des partenariats, mais avec le muséum, entre autres, ils ont des très beaux programmes de sciences participatives, par exemple les Arbonautes, qui permet justement de faciliter beaucoup ce travail.
Bah, pour l'instant, c'est vrai qu'on a, commencé comme ça, mais parce que aussi, mon collègue Smaël Boudia, qui est ici derrière vous, on est deux sur la bibliothèque, et c'est vrai que même si ça nous simplifierait la tâche, lancer juste la démarche, voilà, faut qu'on prenne le temps en fait de l'inventaire, de ces lettres, c'est beaucoup de choses qui sont en route, et c'est vrai qu'il faut prendre le temps de chaque projet.